Bonjour, bienvenue à la radio du lycée Horticole de Blois. Aujourd'hui, la classe de seconde CVPJ et seconde Horticole vous présente une radio sur le droit des femmes. Qu'est-ce que c'est, pourquoi et comment ces femmes se sont battues pour le droit des femmes?
Nous commençons cette émission avec Lucas qui nous présente une chronique sur la journée des droits des femmes, son histoire et sa création.
Le 8 mars, la journée des droits des femmes est pratiquée dans plusieurs pays dans la région. La déclaration des droits des femmes a été créée par Olympe de Gouges, qui le publie en 1791. Les femmes, longtemps considérées comme inférieures aux hommes, n'ont eu le droit de s'exprimer que tardivement dans les différents pays du monde entier. L'égalité salariale, accès à l'emploi, parité en politique. Sous la Troisième République, les femmes bénéficient d'avancées civiles comme l'accès à l'instruction et la Première Guerre mondiale démontrent qu'elles sont indispensables au bon fonctionnement de l'économie.
Après cette chronique, nous poursuivons avec Faustine et Antoine qui nous présentent un micro-trottoir sur que pensez-vous de la journée des droits des femmes? Les femmes sont-elles vraiment égales aux hommes?
Bonjour, je m'appelle Antoine et avec Faustine, élève de seconde Arti CVPJ, nous allons vous parler du droit des femmes. Les questions sont que pensez-vous de la journée des droits des femmes? Et les femmes sont-elles vraiment égales aux hommes?
Donc on a fait une émission radio où nous sommes partis faire un micro-trottoir et nous avons récolté plusieurs enregistrements que nous allons vous faire écouter.
Que pensez-vous de la journée des droits de la femme?
Indispensable, même encore à notre époque, c'est indispensable. Ne serait-ce que pour penser que les femmes ont les mêmes droits que les hommes. Donc on est obligé de faire une journée.
Les femmes sont-elles réellement égales aux hommes?
Pas du tout, absolument pas. Ne serait-ce qu'au niveau de la grille des salaires, mais sur n'importe... Enfin, a priori, là je cherche...
Non, elles n'ont pas les mêmes droits que les hommes, c'est clair.
Que pensez-vous de la journée des droits des femmes?
Bonjour, donc la journée internationale pour le droit des femmes, ce que j'en pense, il me semble qu'elle a lieu le 8 mars. Je me rappelle très bien de Najat Vaillant-Belkacem, qui à l'époque était ministre en charge justement de l'égalité femmes-hommes. Il avait trouvé un autre slogan qui s'appelait « Le 8 mars, c'est toute l'année ». Ça résume assez bien ce que j'en pense. Je pense que c'est important décliner une journée pour se rappeler que l'égalité est quelque chose qui n'est pas encore atteint. Et là, je parle en France, mais on parle bien de journée internationale et je dois reconnaître, j'ai rien à reconnaître. Hein. On est 7 milliards sur la planète et je pense que la place de la femme dans les sociétés humaines, depuis très longtemps, est une place qui n'est pas méritée. C'est une place qui est en deçà. On évolue dans une société patriarcale qui doit faire d'énormes efforts pour pouvoir transformer sa manière de penser les choses, les stéréotypes, les imageries collectives. Et ça peut aller très très loin quand on s'interroge. Il y a un très très chouette bouquin qui s'appelle « Renversante » d'ailleurs, qui se décline en deux volumes et qui est très intéressant, notamment à destination des collégiens. Voilà. Donc moi, je crois que l'égalité est un objectif qui passe en effet par la loi, mais aussi par des remises en question personnelles sur la façon dont on se positionne en tant que garçon et fille et dans la position dans laquelle on se décline. On se positionnera quand on sera parent.
Les femmes sont-elles vraiment égales aux hommes?
Ah bah, biologiquement, nous sommes différents. Mais différents, ça ne veut pas dire inégaux. L'égalité, en fait, elle se questionne à l'échelle de plusieurs axes, notamment l'axe juridique, en matière de droit, notamment. Il y a ce qu'il y a décrit et puis la réalité, le factuel. Dans la société française, non, la femme et l'homme ne sont pas égaux, même si en droit, normalement, ils devraient l'être. Et je parle ensuite derrière des sociétés humaines, évidemment que non, la place de la femme et de l'homme ne sont pas les mêmes. C'est un objectif à atteindre, encore une fois, l'égalité, mais on est encore loin du compte, vraiment loin du compte. Et ça suppose d'énormes efforts de la part de nous tous pour réinterroger nos stéréotypes.
Vous de la journée des droits des femmes?
Je sais pas si c'est en soi une journée nécessaire entre guillemets, mais on sait tous que c'est le 8 mars déjà. Enfin, ce que j'en pense pas grand chose. C'est une journée, pas comme une autre, parce que c'est en soi pour le droit des femmes, sachant qu'on a eu nos droits il y a pas si longtemps que ça, quand on y réfléchit. Et puis c'est surtout qu'on vit dans un monde d'hommes, quoi. Après, je pense que ce serait pas genre le fait que ce soit genre qu'une seule journée. Je pense que ça devrait être tous les jours, mais c'est déjà bien quand même.
Les femmes sont-elles sont-elles vraiment égales aux hommes ?
Oui et non, parce que, je vais rentrer dans le vif du sujet. Alors, en soi, on est différents physiquement et mentalement. C'est une absurdité, je trouve, de dire qu'on est égaux, parce que, en soi, c'est pas vrai. Mais les gens ne peuvent pas comprendre qu'on peut être différent tout en étant, je sais pas comment dire ça, tout en étant dans la même équité, on va dire.
Que pensez-vous de la journée des droits de la femme ?
Eh bien, je pense que c'est forcément une bonne chose quand il n'y a pas l'égalité entre les deux sexes. Mais je crois que, par exemple, dans les pays de l'Est, comme l'Ukraine et la Russie, c'est une journée qui est plus importante et même fériée. Alors peut-être qu'on pourrait la rendre jour férié et jour de fête, ou en tout cas jour d'engagement, plus qu'on le fait actuellement.
Les femmes sont-elles réellement égales aux hommes ?
Alors j'avoue qu'en tant qu'homme, j'ai pas trop conscience des différences d'égalité avec les femmes, mais je pense qu'il y a pas trop de différence.
Vous, de la journée des droits de la femme ?
Bah je trouve que c'est bien parce que par rapport à la société, on n'est pas égal aux hommes. Enfin, par exemple, le salaire de la femme est en dessous du salaire de l'homme, etc. etc. Et donc je trouve que c'est plutôt bien puisque du coup ça nous égalise un peu par rapport aux hommes, quoi.
Sont-elles réellement égales aux hommes ?
Non, ça devrait l'être, mais le code vestimentaire, par exemple, les femmes n'ont pas le droit de s'habiller comme elles le veulent parce qu'elles peuvent se faire agresser, etc. Alors que les hommes, en fait, ils peuvent plus s'habiller comme ils veulent, enfin, ils ont moins de contraintes. Et par rapport au salaire aussi, encore une fois, les hommes ont un salaire plus élevé que la femme et je trouve ça pas normal.
Vous, de la journée des droits des femmes ?
Je pense que malheureusement, c'est encore un peu indispensable de mettre l'accent sur cette thématique-là. Moi, j'aimerais bien qu'il n'y ait plus une seule journée qui soit dédiée et que ce soit un sujet de tous les jours. Mais en France et surtout dans d'autres endroits du monde, malheureusement, on est encore dans une situation où beaucoup de femmes ont des droits et en tout cas s'approprient leurs droits de manière moins importante que pour les hommes. Donc je trouve ça bien qu'on puisse en parler pendant toute une journée.
Les femmes sont-elles réellement égales aux hommes ?
Alors, moi, je vais parler pas pour les femmes, mais je vais parler pour moi, parce que je trouve ça toujours très difficile de faire une généralité. Moi, en tout cas, dans ma situation à la fois d'enseignante et puis d'agricultrice, j'ai la chance, en tout cas, de jamais avoir subi de discrimination particulière parce que j'étais une femme. Je trouve, alors même si on dit que le milieu agricole est encore très machiste, en tout cas, moi, j'en ai pas fait les frais. Donc, je vais mettre plein de guillemets pour répondre à cette question parce que malheureusement, c'est que des cas particuliers où, effectivement, je vis dans la société et j'entends qu'il y a plein de problèmes. À la fois lié au harcèlement, lié à la rémunération, lié à des droits des femmes qui seraient bafoués, mais en tout cas pour moi aujourd'hui à la fois dans l'enseignement et dans l'agriculture, je ne trouve pas personnellement que j'ai des droits et que je sois c'était quoi la question inférieure ?
Non, si on est égal aux hommes.
Ah oui, égal. Mais je pense même qu'on est meilleur. N'est-ce pas, Faustine ?
Ouais, exactement.
Que pensez-vous de la journée des droits de la femme ?
Je pense que c'est une façon de mettre en avant les droits des femmes, d'en parler davantage, puisque tout le monde en parle. Alors évidemment, on pourrait dire que c'est tous les jours les droits de la femme, mais cette mise en lumière pendant cette journée-là peut être intéressante, puisque c'est l'occasion de faire des reportages et des articles sur les droits des femmes.
Les femmes sont-elles réellement égales aux hommes ?
Évidemment, elles sont égales. Dans la société, ce que la société implique et organise fait qu'elles n'ont pas des droits à égalité, mais naturellement, évidemment, qu'elles sont réellement égales aux hommes.
On en conclut que les différentes personnes interrogées n'ont absolument pas le même avis, même si le sujet reste le même, car en écoutant les différents enregistrements,
on remarque que certaines personnes pensent que les femmes sont absolument pas égales aux hommes selon le salaire, et d'autres qui pensent que les hommes et les femmes sont égaux.
Après ce micro-trottoir, nous passons à un deuxième micro-trottoir qui est sur le féministe, l'histoire et les figures majeures de Nausicaa et Audrey. Bonjour, nous sommes Audrey et Nausicaa, des élèves du lycée Horticole. Aujourd'hui, nous vous présentons des enregistrements de micro-trottoir et les noms de femmes les plus retenues de l'histoire. Nous vous laissons avec nos enregistrements, tous faits au sein de l'établissement.
Connaissez-vous l'histoire du féminisme et ses personnages importants ?
Bien sûr.
Non, on en connaît un petit peu, hein. On n'est pas encore en plein dedans. Je ne suis pas en plein dedans, mais je connais par exemple par rapport à Simone Veil. Simone Veil a fait la loi de l'avortement. Déjà ça a pris d'importance.
Connaissez-vous l'histoire du féminisme et ses personnages importants ?
Alors, vaguement, je connais des grandes figures comme Olympe de Gouges qui a été dans les premières et puis qu'au bout de son combat jusqu'à en perdre la vie. Après, l'une des grandes figures qui me vient, c'est Simone Veil, qui s'est beaucoup battue pour le droit à l'avortement. J'ai en tête aussi la loi Wörth pour la contraception, mais j'ai plus les dates en tête.
Connaissez-vous l'histoire du féminisme et ses personnages importants ?
Alors oui, ayant fait des études universitaires d'histoire, j'ai été fortement sensibilisé par l'histoire des femmes. Je dirais que les figures qui m'ont le plus marqué, comme beaucoup, c'est Simone de Beauvoir avec le deuxième sexe. Mais on a aussi beaucoup travaillé sur les suffragettes du 19e siècle, comme Hubertine Auclert.
Connaissez-vous l'histoire du féminisme et ses personnages importants ?
Alors, je ne sais pas si je connais toute l'histoire du féminisme. Je connais des noms comme Olympe de Gouges, comme Simone de Beauvoir, comme Simone Veil, comme Madame Halimi. Ce sont des noms qui circulent beaucoup dans les médias actuellement. J'imagine bien que l'histoire se souvient que, d'une part, je dirais, pas hasardeuse des choses, mais qu'elle ne comprend certainement pas, ou en tout cas qu'elle ne se souvient pas de toutes les personnes qui se sont engagées pour une égalité des genres. Je crois que le féminisme, c'est avant tout ça, une égalité des droits dans les sociétés, au sens large du terme. On en parle beaucoup aujourd'hui, c'est tout à fait légitime. On est au 21e siècle. L'humanité est très très âgée. Enfin, sur l'échelle de l'univers, elle n'est pas si âgée que ça, mais en tout cas, nous avons une longue histoire de civilisation, avec plusieurs civilisations qui se sont succédées. Dans beaucoup de civilisations, l'égalité femmes-hommes n'était absolument pas acquise. Il est important qu'on puisse se poser cette question dans toutes les civilisations humaines sur la planète. Mais je pense que dans l'histoire de l'humanité, il y a eu des civilisations où l'égalité des genres, en tout cas, n'était pas la même que celle d'aujourd'hui, était parfois même peut-être plus prononcée. Donc je pense que pour les féministes, on pourrait parler des Amazones, je ne suis pas sûr qu'elles aient été des féministes, mais elles avaient en tout cas le pouvoir dans cette civilisation-là. Selon les pays, ça va vraiment être complètement différent. En France, on est sur des premiers désirs de féministes connus, je pense aux communardes et à la commune. Ces femmes qui ont pris la barricade malgré les conventions et qui ont manifesté leur souhait de se révolter et de faire évoluer la société vers des choses plus égalitaires au niveau social, mais aussi au niveau des genres. Au niveau social également, c'était déjà pour moi là des féministes, hein, des femmes qui, malgré le moins de droits que les hommes elles avaient, eh bien, elles ont engagé leur vie pour, on les appelait les pétroleuses, hein, pour lutter pour une forme d'égalité sociale. Donc voilà, que je peux en dire aujourd'hui, en tout cas à la fin du XXe siècle, le mouvement de libération de la femme, le MLF, était un des grands mouvements qui a rappelé à la conscience collective française, et puis je pense ailleurs dans le monde, hein, d'autres mouvements, l'égalité était une chose qui n'allait pas de soi. Il fallait se battre. Et il est vrai qu'on évolue dans les sociétés humaines, dans les sociétés assez patriarcales, donc fondées sur l'autorité de l'homme, non pas l'autorité de la femme.
Pour conclure cette thématique, nous allons poser quelques bases comme la définition du féminisme. D'une manière générale, le féminisme peut être considéré comme un mouvement visant à mettre fin au sexisme, à l'exploitation et à l'oppression sexiste et à réaliser la pleine égalité de genre et droit en pratique.
Et voici les noms les plus retenus et leurs faits. Nous commençons par Olympe de Gouges, femme du XVIIIe siècle. Elle fut guillotinée le 3 novembre 1793 à Paris pour avoir dédié sa déclaration aux droits des femmes et de la citoyenneté. Citoyenne. Nous avons après Simone de Beauvoir avec Gisèle Halimi. Elle fonde le mouvement féminisme, choisir la cause de femmes, déterminant pour la dépénalisation de l'avortement Elle défile avec les militants du MLF, mouvement de la libération des femmes, sans prendre parti dans les affrontements stratégiques. Simone Veil est une femme du XXe siècle et l'une des femmes dont le nom est le plus retenu du grand public. Elle finit sa vie le 30 juin 2017 à Paris. Dans sa vie, elle fut nommée ministre de la Santé par le président Valéry Giscard d'Estaing, qui la charge de faire adopter la loi dépénalisant le recours à l'interruption volontaire de grossesse, l'IVG. Loi qui sera ensuite couramment désignée comme la loi Veil.
Les suffragettes sont des femmes d'Angleterre qui, à la fin du 19e siècle et début du 20e siècle, revendiquaient le droit de vote pour les femmes.
Le manifeste des 343 femmes. Ce sont 343 femmes qui ont signé une pétition pour contrer le procès d'une femme qui s'est faite avorter illégalement. Ces 343 femmes ont affirmé avoir avorté illégalement. En faisant cela, elles auraient pu perdre leur carrière. Le procès fut acquitté avec leur aide. Ce manifeste a également pour nom le manifeste des 343 salopes. De grandes figures y ont participé, comme Hélène de Beauvoir, Simone de Beauvoir et Catherine Deneuve.
Petite pause musicale avec Michel Sardou.
Dans un voyage en absurdie que je fais lorsque je m'ennuie, j'ai imaginé sans complexe qu'un matin je changeais de sexe, que je vivais l'étrange drame d'être une femme. Femme des années 80, mais femme jusqu'au bout des seins, ayant réussi l'amalgame de l'autorité et du charme. Femme des années 80, moi Colombine Carlequin, sachant bien noter sur la gamme qui va du grand sourire aux larmes. Être un PDG en bas noir, sexy comme autrefois les stars. Être un général d'infanterie, rouler des patins aux conscrits, enceinte jusqu'au fond des yeux qu'on a envie d'appeler monsieur. Être un flic ou pompier de service et donner le sein à mon fils. Femme cinéaste, écrivain, à la fois poète et mannequin. Femme panthère sous sa pelisse et femme bancaire planquée en Suisse. Femme dévoreuse de minets, femme directeur de cabinet, à la fois sensuelle et pudique, et femme chirurgien esthétique. Une maîtresse messaline et contre-maîtresse à l'usine. Faire le matin les abattoirs et dans la soirée le trottoir. Femme et gardien de la paix, chauffeur de car, agent secret. Femme générale d'aviation, rouler des gamelles au peloton. Être un major de promotion, parler six langues, ceinture marron, championne du monde des culturistes, aimée Sissi impératrice, enceinte jusqu'au fond des yeux, qu'on a envie d'appeler monsieur, en robe du soir à talons plats, qu'on voudrait bien appeler papa. Femme pilote de long courrier, mais femme à la tour contrôlée, galonnée jusqu'aux fortes jarretelles et au steward rouler des pelles, maîtriser à fond le système, accéder au pouvoir suprême, s'installer à la présidence et de la faire border la France. Femme et gardienne de prison, chanteuse d'orchestre et franc-maçon, une stripteaseuse à temps perdu, emmerdeuse comme on n'en fait plus. Femme conducteur d'autobus, forte idéale, vendeuse aux puces, qu'on a envie d'appeler Georges, mais qu'on aime bien sans soutien-gorge. Des années 80, mes femmes jusqu'au bout des seins, ayant réussi l'amalgame de l'autorité et du charme. Femme des années 80, moins Colombine Carlequin, sachant bien noter sur la gamme qui va du grand sourire aux larmes. Être un PDG en bas noir, sexy comme autrefois les stars. Être un général d'infanterie, rouler des patins aux conscrits. Femme cinéaste, écrivain, à la fois poète et mannequin. Femme panthère sous sa pelisse et femme bancaire planquée en Suisse. Femme dévoreuse de minets, femme directeur de cabinet, à la fois sensuelle et pudique et femme chirurgien esthétique. Être un major de promotion, parler si lent que ça tue marron. Championne du monde des culturistes et mes ici impératrices. Femme et gardien de la paix, chauffeur de car, agent secret. Femme générale d'aviation, rouler des gamelles au planton. Femme pilote de long courrier, mais femme à la tour contrôlée. Galonner jusqu'au fort jartel et au steward rouler des pelles. Maîtriser à fond le système, accéder au pouvoir suprême. Ça
Après cette pause musicale, Léo et Lucie nous ont interviewé des personnes sur l'évolution du droit des femmes et de l'Antiquité à nos jours.
Bonjour, nous sommes Léo et Lucie. On va vous parler de l'évolution des droits des femmes de l'Antiquité à nos jours et on va vous poser quelques questions.
Bonjour.
Bonjour. Que pensez-vous des droits des femmes de l'Antiquité à nos jours ? Ont-ils beaucoup évolué ?
Alors, je pense que oui, effectivement, ils ont beaucoup évolué, même si la pièce de théâtre qu'on a été voir, Lysistrata, nous montre que l'engagement de certains auteurs, il y a 2000 ans, était déjà bien présent. Mais je pense qu'effectivement, quand on regarde les travaux d'un historien comme Georges Duby sur l'histoire des femmes en Occident, par exemple, on s'aperçoit qu'il y a quand même une évolution au travers des siècles. La place des femmes dans la société était très différente au Moyen-Âge ou même au moment de la révolution industrielle. En fait, il y a des cas particuliers, voilà, que ce soit Lysistrata ou si on prend encore Antigone, c'est effectivement des figures de l'Antiquité, des figures féministes de l'Antiquité, mais ce sont des cas particuliers, au même titre, on pourrait citer Olympe de Gouges, qui est une femme très engagée au XVIIIe siècle, mais ce sont des cas particuliers. Je pense que c'est vraiment au XXe siècle, effectivement, qu'il y a un vrai mouvement féministe qui se met en place et où on a un développement en tout cas du développement d'une lutte dans les classes populaires, enfin à tous les échelles même de la société, pour donner plus de place aux femmes. Donc je dirais qu'à partir des années effectivement 60, après la guerre en fait, on parle souvent de mai 68, les femmes commencent oui effectivement à lutter de façon générale pour leurs droits et les hommes aussi commencent à s'engager en fait dans cette lutte.
Qu'avez-vous pensé donc de la pièce Lysistrata que nous avons vue ?
Bien, j'ai beaucoup aimé cette pièce, c'est une comédie, c'est burlesque, c'est gage et cru, parfois même on pourrait dire obscène, mais je pense que de passer par la comédie, comme l'a fait Aristophane, et d'ailleurs il n'en a pas écrit qu'une, hein, il en a écrit plusieurs, mais de passer par le ton comique, ça touche un plus large public, hein, et des auteurs contemporains de son époque, hein, l'auteur d'Antigone. Voilà, écrire une tragédie, c'est amener le public ailleurs que lorsqu'on écrit une comédie. Et je pense qu'effectivement, le fait de se divertir permet d'apprendre des choses différemment et peut-être plus facilement. J'ai beaucoup aimé. Puis le jeu des acteurs était absolument formidable. Donc j'ai trouvé ça et drôle et impertinent. Et le propos aussi très intéressant, justement, sur la place des femmes, la période grecque.
Quel lien pouvez-vous faire entre la pièce de théâtre et les droits de femmes ?
Alors ces femmes, Lysistrata en tête, elles entrent en lutte et proposent en fait leur grand souhait, c'est de passer par la grève de l'amour pour forcer les hommes à faire la paix, puisqu'on est une période où la Grèce est en guerre, les maris ne sont plus là et les femmes s'en désolent. Elles trouvent aussi qu'il y a une énorme dépense publique accordée à la guerre et donc elles veulent plus voir l'argent public partir pour ces futilités. Elles s'inquiètent pour le futur de leur fils, parce qu'évidemment, si la guerre perdure, leurs fils un jour iront faire la guerre. Et elles vivent tout un tas de privations en fait. Donc elles s'engagent de manière assez crue. Finalement, et donc même si le propos d'Aristophane paraître un peu daté et voilà, il n'empêche que ça parle dans le contexte de l'époque de la prise de parole des femmes sur des questions politiques et des affaires publiques. Donc elles se mêlent quelque part de ce qui ne les regarde pas à l'époque, parce que les femmes ont un rôle très, dans la Grèce antique, un rôle très défini. Elles s'occupent des enfants, elles s'occupent de la cuisine, enfin, elles ont quasiment le même rôle qu'un esclave, finalement. Et là, elles sortent de leurs conditions et elles décident de monter au créneau en utilisant un langage cru, en des cash, on pourrait dire. Donc c'est très drôle et c'est très intéressant. Évidemment, à la fin de la pièce, tout retourne... tout retourne comme avant, puisque les hommes effectivement renoncent à la guerre et les femmes sont renvoyées de nouveau en fait à leur fonction. Mais c'est intéressant de voir qu'à un moment en fait elles réussissent quelque part elles réussissent à prendre la parole et à se mêler de ce qui a priori ne les regarde pas.
À l'Antiquité, les femmes n'avaient quasiment pas de droits. Elles sont sous la tutelle de leur père ou de leur mari. La femme n'est pas indépendante. Toute femme doit s'occuper du foyer et des enfants. Elle ne vote pas et ne travaille pas.
Au Moyen-Âge, la femme est un objet à procréer et donc inférieure à l'homme. Les femmes obéissent à leur père ou à leur mari. Elles n'ont pas le droit d'aller dans des lieux juridiques et n'ont pas le droit de gouverner.
Au temps moderne, les femmes ayant du savoir et des connaissances sont considérées comme des sorcières et sont donc brûlées. Elles n'ont pas le droit d'exercer dans les fonctions publiques et n'ont pas de droit.
À partir du XXe siècle, les femmes mariées ont le droit d'ouvrir un compte d'épargne et d'en retirer des faibles sommes sans l'autorisation de leur mari. Elles peuvent aussi conclure un contrat de travail et toucher une petite partie de leur salaire. Elles ont un peu plus de droits, mais restent soumises aux hommes.
Au fur et à mesure du temps, on remarque que la religion et l'État se séparent peu à peu pour donner plus de droits aux individus, dont les femmes de nos jours, dont les femmes ont des droits, vote, IVG, conduite, sauf dans certains pays et États du monde.
Suite à cette interview, Louis, Océane, Lucas, Luerne nous font un reportage sur le droit de vote des femmes, droit de conduire, intégration des femmes dans l'armée.
On va vous parler de l'intégration de la femme dans l'armée.
L'histoire des femmes dans l'armée s'étend sur plus de 4000 ans, à travers un grand nombre de pays et de civilisations. Depuis les guerrières de l'Antiquité jusqu'aux femmes militaires engagées dans les conflits contemporains, elles ont tenu dans les armées des rôles multiples et même dans toutes les cultures, la grande majorité des combattants ont été des hommes.
Peu de femmes dans l'histoire ont combattu aux côtés des hommes. Le plus souvent, elles ont été employées comme auxiliaires. 6100 en 1939, leur engagement sur le front a souvent été interdit et reste objet de débat.
Jeanne d'Arc est le symbole de la femme dans l'armée française, née en 1412 en Lorraine.
Maintenant, la femme est beaucoup plus acceptée dans l'armée, elle est même sollicitée. 16,5% de femmes est dans l'armée à l'heure d'aujourd'hui.
Que pensez-vous de la place de la femme dans l'armée ? Un métier assez physique, assez viril, mais ils ont toute leur place dans l'armée pour amener un peu plus de sagesse.
Est-ce que la femme est égale à l'homme dans l'armée ?
Difficile de répondre, il y a quand même des tâches physiquement qui sont quand même très très dures. Si on prend après tout ce qui est combat, non, je pense que la femme dans l'armée amènera plus de sagesse, plus de finesse. Et dans tout ce qui est matériel moderne, c'est tout à fait approprié.
D'après vous, depuis combien de temps la femme est-elle dans l'armée française ?
Alors, je dirais une petite trentaine d'années dans tout ce qui est pareil, technique.
Et que pensez-vous de la place de la femme dans l'armée ?
Je pense que comme dans tous les autres secteurs, la femme a sa place.
Est-ce que la femme est égale à l'homme dans l'armée ?
Oui, selon moi. D'autant plus que j'ai une cousine qui a passé 10 ans dans l'armée, qui a évolué, qui a fini très gradée.
Et d'après vous, depuis combien de temps la femme est dans l'armée ? En France ?
Alors, je ne sais pas. Je pense depuis très longtemps, certainement. Enfin, je pense à la Résistance. Je pense également à la Première Guerre mondiale, où il y avait beaucoup de femmes. Officiellement, je ne sais pas.
Que pensez-vous de la place de la femme dans l'armée ?
Je pense personnellement qu'elle a tout à fait sa place dans l'armée. Que, bien sûr, il y aura des différences physiques et autres liées, du coup, au sexe. C'est normal. Mais que je ne vois pas en quel point elle pourrait, imaginons à la guerre, mal visée ou autre parce que c'est une femme ou être moins forte ou autre. C'est les capacités physiques n'ont pas la plus grande importance au niveau de la guerre, donc elle a totalement sa place à ce niveau-là. Puis dans tous les conflits.
Est-ce que la femme est égale à l'homme dans l'armée ?
Physiquement non, elle n'est pas égale à l'homme. Par contre, pour beaucoup de domaines, elle va peut-être être plus forte que l'homme. Donc tout va dépendre du domaine dans lequel elle va vouloir aller, de la force musculaire, de l'entraînement qu'ils ont pris. Et en compte, et puis après, au petit bonheur la chance.
Bonjour, je m'appelle Louis, et mon camarade s'appelle Lucas. Nous sommes tous les deux en seconde article. Pour notre projet radio, nous allons vous parler du droit de conduire des femmes.
Le permis de conduire a fait son apparition en 1893 pour les hommes âgés de plus de 21 ans. La première femme à obtenir un certificat de conduite est en 1898. Cette personne s'appelle Camille Dugost.
La première femme à obtenir un droit de conduire avec un véhicule motorisé était le 31 décembre 1922. Cette femme s'appelait Anne de Rochechaux.
D'après le bilan de la sécurité routière, 84% des hommes sont responsables des accidents mortels en 2022. Selon les chiffres de la sécurité routière, sur l'année 2022, 80% des morts sur la route sont des hommes.
Maintenant, nous allons partir sur les routes pour voyager. Pour cela, il existe une émission qui se diffuse une fois par an et qui se diffuse sur 2 mois. Cette émission se nomme « Les Reines de la Route ». Le premier épisode se diffuse à la télévision le 7 janvier 2021.
Maintenant, nous vous laissons avec les personnes du lycée que nous avons interviewées.
Donc, que penses-tu sur le droit de conduire des femmes ?
Je pense que les femmes, elles ont le droit de conduire comme les hommes.
Enfin, c'est, on est 50-50, on va dire.
D'accord. Est-ce que tu penses que les femmes conduisent mieux, moins bien que les hommes ?
Non, je pense qu'ils conduisent juste tous pareil.
D'accord. Et en termes d'accidents, tu penses qu'il y a plus d'accidents au niveau des hommes ou des femmes ?
Des hommes, parce qu'ils ont plus, ils font moins attention sur la route que les femmes.
D'accord. Eh ben merci. Donc, qu'est-ce que tu penses sur le droit de conduire des femmes ?
Je pense qu'elles devraient avoir le droit de conduire tout autant que les hommes, parce que ce sont aussi des êtres vivants, des êtres humains qui ont besoin de se véhiculer pour travailler, tout ça, quoi.
Ok. Et est-ce que tu penses que les femmes conduisent mieux, moins bien
Je pense que c'est très aléatoire, que c'est juste propre à chacun, que soit on a le talent, soit on ne l'a pas, et puis c'est comme ça.
D'accord. Et sur les accidents ? Sur qui fait le plus d'accidents
Je pense concrètement, les gens qui font le plus d'accidents, c'est ceux qui boivent de l'alcool. C'est pas D'accord. les hommes ou les femmes, donc il n'y a rien à voir là-dedans.
D'accord. Ça marche, bah merci.
De rien.
Qu'est-ce que tu penses du droit de conduire des femmes ?
Je sais pas, moi.
C'est une réponse faible. Est-ce que tu penses que les femmes conduisent bien ?
Bah oui, elles conduisent bien.
D'accord. Et tu penses que c'est qui fait les accidents majeurs ? Il y a plus d'hommes qui font des accidents, plus de femmes ?
Plus d'hommes.
Après ce reportage, Camille nous interviewe des personnes sur le droit à l'IVG interdit dans certains états des USA.
Bonjour, je m'appelle Camille, je suis en seconde CPJ et je vais vous présenter un interview sur la loi du droit à l'IVG aux USA, où vous verrez les différentes réponses.
Le 24 juin 2022, une loi interdisant l'IVG a été décidée dans 13 états des États-Unis. Qu'en pensez-vous ?
Je pense que ça aurait pas dû avoir lieu parce que ça prive les femmes de faire un choix sur leur corps. Donc, je pensais que c'était quelque chose qui était acquis du coup et qu'on puisse pas revenir en arrière, mais bah, visiblement, on est un peu retourné dans le passé.
Alors, je pense que c'est pas bien. Enfin, moi, je suis pas pour. Moi, je pense qu'on devrait avoir le droit de choisir en tant que femme si on doit garder l'enfant ou pas. Car il y a des grossesses non désirées, le viol, l'inceste et autres. Donc, je pense qu'on devrait être en droit de choisir, car après, il faut élever cet enfant. Donc, il faut mieux l'élever en bonnes conditions que de l'abandonner.
J'en pense. Alors, mon opinion là-dessus, c'est que c'est un sacré recul social. Interdire l'interruption volontaire de grossesse dans un pays dit occidental, prenant la liberté première valeur, c'est, je sais pas, faire 200 ans en arrière. Le droit de choisir d'avoir un enfant ou pas est un droit fondamental de mon point de vue. Une femme porte l'enfant, elle doit pouvoir choisir de le porter ou de ne pas le porter. Si toutefois les circonstances font qu'une femme tombe enceinte et qu'elle décide de ne pas conserver l'enfant, il devrait absolument être écrit dans la Constitution, dans les droits fondamentaux des êtres humains, de pouvoir utiliser son corps comme il le souhaite. Voilà. Donc je suis consterné. Je suis d'autant plus consterné que ce mouvement interdisant les IVG est un mouvement qui s'étend un petit peu dans le monde. Je suis ravi d'entendre aussi en contrepoint que beaucoup d'États, de nations, de populations réagissent à cette interdiction de l'IVG, réagissent en France par exemple en inscrivant dans la Constitution ce droit fondamental comme un droit humain. Je suis évidemment inquiet face à ce genre d'événements qui ont une importance magistrale et majeure dans le mouvement du monde. D'un côté, on a des sociétés qui ont évolué énormément, des droits et des organisations politiques qui ont énormément évolué. Nous sommes au 21e siècle et j'ai l'impression par moment de voir un mouvement inverse du monde tendrait retourner vers une forme de traditionnalisme très dangereux de mon point de vue. Voilà. Je crois que l'avortement est un droit fondamental. Et voilà.
Bah, en soi, j'ai pas d'avis pour ou contre. Par contre, enfin, du coup, c'est un peu contradictoire, mais ce que je dirais, c'est que je dirais pas que je suis contre cette loi, mais je suis pas pour non plus, étant donné que c'est vrai que, enfin, quand on a un enfant, enfin, on va dire qu'on est en grossesse, on garde l'enfant. Mais ce truc, c'est que l'enfant n'est pas encore formé. Alors en soi, c'est même pas un fœtus, c'est juste un. c'est encore rien. Donc en soi, c'est pas avorté. Je pense que c'est un choix comme un autre, sachant que, admettons, vu qu'il y a cette loi et que c'est interdit par la loi, vous imaginez, l'enfant qui, la mère là, qui garde l'enfant, il grandit, sauf qu'il n'y a pas de père, il n'y a pas de parents, il n'y a rien, et puis l'enfant, il vit dans des conditions pas saines. Donc, non, je pense que cette loi ne devrait même pas être. Personnellement, ne devrait pas exister parce que pour moi, c'est pas cool, quoi. Voilà.
Je trouve ça tout à fait aberrant. L'IVG étant un progrès social qui a été très durement acquis. Pour moi, ça représente vraiment une régression de disposer de son corps, les libertés. Je trouve que pour un pays qui se targue de représenter le progrès, c'est vraiment un comble. Je trouve ça totalement aberrant.
Je vais vous expliquer pourquoi j'ai choisi de faire un interview et vous raconter un peu l'histoire. Le 24 juin 2022, une loi est passée pour interdire l'interruption volontaire de grossesse aux États-Unis. 13 États ont interdit l'IVG comme l'Arkansas, l'Utah ou le Texas. Selon le journal 20minutes.fr, une personne sur 5 serait prêt à déménager pour un état qui ne pénalisant pas l'IVG. J'avais choisi de faire cette interview car l'interdiction à l'IVG aux États-Unis est très récente et très problématique sur les femmes et la liberté des droits de la femme. Pourquoi est-elle problématique? La question fait réfléchir les gens qui ne donnent pas les mêmes avis. L'IVG donne des débats et même des manifestations pour avoir cette liberté d'avorter. D'un côté, on me dit que l'interdiction à l'IVG n'aurait pas dû avoir lieu car ça a été très durement acquis et que ça a pris la liberté de la femme. D'un autre côté, on m'a seulement dit que l'interdiction à l'IVG serait bien parce que quand on est en grossesse, on garde l'enfant. Sinon, toutes les personnes sont contre la loi de l'interdiction à l'IVG.
Écoutons maintenant Résiste de France Gall.
Si on t'organise une vie bien dirigée, où tu t'oublieras vite. Si on te fait danser sur une musique sans âme, comme un amour qu'on quitte. La vie n'est pas là, que le matin tu te lèves sans savoir où tu vas. Résiste, prouve que tu existes. Cherche ton bonheur partout. Va, refuse ce monde égoïste. Résiste, suis ton cœur qui insiste. Ce monde. Ça vaut la peine. Si on veut t'amener à renier tes erreurs, c'est pas pour ça qu'on t'aime. Si tu réalises que l'amour n'est pas là, que le soir tu te couches sans aucun rêve en toi, résiste. We'll be right back.
Après cette petite pause musicale, Grégor et Boulat nous interprètent un micro-trottoir sur les pays où les femmes n'ont pas tous les droits.
Bonjour, je suis Grégor.
Et je suis Boulat.
Nous sommes des élèves de seconde du lycée horticole de Blois. Nous avons fait un micro-trottoir sur le thème des pays où les femmes n'ont pas tous les droits. Par exemple le Vatican, où les femmes n'ont pas le droit de voter, ou encore le Yémen, où elles n'ont pas le droit de s'exprimer.
Trouvez-vous cela normal qu'en 2023, certains pays interdisent encore aux femmes le droit de sortir seules, le droit de travailler, le droit de vote ?
Non, absolument pas, c'est totalement rétrograde. On est en 2023, je trouve ça totalement aberrant. Aujourd'hui qu'on soit encore sur des... que des lois comme ça existent encore, qu'il y ait des gens pour les voter, je trouve ça absolument aberrant.
Trouvez-vous cela normal qu'en 2023, certains pays interdisent encore aux femmes le droit de sortir seules, de voter, de bien s'habiller ou je sais pas quoi?
Non, parce que enfin, c'est surtout que c'est genre, même interdire quelque chose, enfin plusieurs choses à une personne, c'est déjà beaucoup de choses, on va dire. Mais surtout, enfin, à la gente féminine en fait, c'est-à-dire que c'est comme si on était genre un cas à part, genre comme si on était genre une race à voilà quoi. Bon, je vais dans l'excès, mais c'est aberrant, je trouve, parce que voilà quoi.
Trouvez-vous cela normal qu'en 2023, certains pays interdisent encore aux femmes le droit de sortir seules ou de travailler, de s'habiller comme elles veulent? Par exemple, au Vatican, le droit de vote, c'est interdit pour les femmes.
Honnêtement, je trouve pas ça normal, mais il faut aussi penser qu'en France, on a cette liberté parce qu'on l'a gagnée, parce qu'on l'a voulu, qu'on n'a pas tous la même histoire dans tous les pays et que... Je vois par exemple l'exemple du Vatican, ils ont une autre histoire, je la connais pas particulièrement, mais ils ont une autre histoire qu'en France. Il y a, à mon avis, pas eu de révolte comme nous. Et même s'ils ont voulu garder ou avoir le droit des femmes, ça veut pas dire que plus tard ils l'auront pas.
Trouvez-vous cela normal qu'en 2023, certains pays interdisent encore aux femmes le droit de sortir, de travailler, de s'habiller comme elles veulent et le droit de vote?
Non, c'est pas normal parce que les hommes, eux, ils peuvent s'autoriser pour eux.
Trouvez-vous cela normal qu'en 2023, certains pays interdisent encore aux femmes le droit de sortir seules, le droit de travailler, le droit de s'habiller comme elles veulent et le droit de vote?
Non, je trouve ça absolument... inadmissible. Les femmes, les jeunes filles devraient avoir le droit, comme les jeunes garçons et comme les hommes, de participer à des activités de société, comme aller à l'école, le droit d'étudier, le droit de s'habiller de la manière qu'elles le souhaitent, le droit d'aller travailler dans le type de travail qu'elles désirent et pas dans un travail qui leur est imposé, et évidemment d'avoir le droit de voter aussi rapidement et à l'âge auquel les jeunes hommes ont eux droit d'aller voter.
Ce n'est pas normal qu'en 2023, qu'une femme n'ait pas les mêmes droits que les hommes. C'est aberrant que les femmes n'ont pas les mêmes activités que les hommes. Le plus choquant, c'est qu'encore en 2023, dans certains pays comme Afghanistan, Arabie Saoudite, Syrie, Iran, Irak, etc., n'ont pas les droits de sortir toutes seules et n'ont pas le droit de travailler ou de conduire et pas le droit de voter. Les femmes devraient enfin avoir les mêmes droits que les hommes. On est en 2023. Et l'inégalité continue. Pour moi, c'est une honte, c'est inadmissible de voir ce genre de choses encore en 2023.
Passons à la chronique de Safa et Khadija sur l'égalité des salaires dans le monde entre les hommes et les femmes.
Des salaires dans le monde entre hommes et femmes. Depuis plusieurs années, les hommes restent rémunérés en moyenne 28,5% de plus que les femmes. À poste et compétences égales, l'écart salarial est de 9%. Une partie des inégalités salariales entre les femmes et les hommes s'explique ensuite par des différences d'emploi.
Les hommes occupent en moyenne des emplois plus rémunérateurs que les femmes. Les inégalités s'expliquent principalement pour les femmes dans le marché de l'emploi. Les femmes sont concentrées dans deux familles professionnelles dévalorisées financièrement et socialement où les qualifications et la pénibilité ne sont pas reconnues.
Soir, nous écoutons et nous parle de parité.
Spécialement dédicacée aux routières, aux câblières, infirmières, jardinières, pâtissières, tapissières, biscoutières, joaillières, téléphonistes et machinistes, aux fleuristes, aux coristes, aux urbanistes, aux ébénistes, aux pépiniéristes, aux satiristes, aux coloristes, aux courriéristes, aux chimistes, aux hygiénistes, aux trompettistes, aux trapézistes. On parle d'égalité, on parle de parité, mais les femmes qui travaillent n'ont pas gagné la bataille. On parle d'égalité, on parle de parité, mais les femmes qui travaillent n'ont pas fini de batailler. On parle d'égalité, on parle de parité, mais les femmes qui travaillent n'ont pas gagné la bataille. On parle d'égalité, on parle de parité, mais les femmes qui travaillent n'ont pas fini de batailler.
dédicacé aux géologues, psychologues, sociologues, sinologues, philologues, écologues, graphologues, archéologues, paléologues, marinières, fermières. Aux costumières, aux couturières, aux façonnières, aux gantières, aux lingères, aux ménagères, aux bichetières, aux secrétaires, aux romancières, aux aventurières, vas-y. Continue la liste. Téléphoniste, machiniste, économiste, violoniste, étalagiste, paysagiste, métallurgiste, aquarelliste, carriériste, archiviste, journaliste et modéliste. On parlait d'égalité, on parle de parité, mais les femmes qui travaillent n'ont pas gagné la bataille. On parlait d'égalité, on parle de parité, mais les femmes qui travaillent n'ont pas fini de batailler. On parle d'égalité, on parle de parité, mais les femmes qui travaillent n'ont pas gagné la bataille. On parle d'égalité, on parle de parité, mais les femmes qui travaillent n'ont pas fini de batailler. Aux serveuses, aux chroniqueuses, aux visiteuses, aux chercheuses, aux enquêteuses, aux ajusteuses, aux acheteuses, aux chanteuses, aux danseuses, inspectrices ou perforatrices. Dessinatrices, créatrices, animatrices, opératrices, réalisatrices, productrices, éducatrices, monitrices, compositrices, cantatrices, aux galériennes, magiciennes. Aux historiennes, bohémiennes, aux grammairiennes, aux physiciennes, aux techniciennes, aux gardiennes, aux électriciennes, aux mécaniciennes, aux comédiennes, aux pharmaciennes, aux musiciennes, aux famousiennes. À toutes celles saisonnières, serrières ou journalières qui pour un travail égal à celui qui a fait le mal, la qualification égale, touche-moi, c'est pas normal. On parle d'égalité, on parle de parité, mais les femmes qui travaillent n'ont pas gagné la bataille. On parle d'égalité, on parle de parité, mais les femmes qui travaillent n'ont pas fini de batailler. On parle d'égalité, on parle de parité, mais les femmes qui travaillent n'ont pas gagné la bataille. On parle d'égalité, on parle de parité, mais les femmes qui travaillent n'ont pas fini de batailler. On parle d'égalité, on parle de parité, mais les femmes qui travaillent n'ont pas gagné la bataille. On parle d'égalité, on parle de parité, mais les femmes qui travaillent n'ont pas fini la bataille. On parle d'égalité, on parle de parité, mais les femmes qui travaillent n'ont pas gagné la bataille. On parle d'égalité, on parle de parité, mais les femmes qui travaillent n'ont pas fini la bataille.
Après cette petite musique, nous avons Mathéo qui nous a fait un micro-trottoir, avoir les mêmes conditions de travail hommes et femmes en France.
Bonjour, je m'appelle Mathéo et j'ai posé une question à plusieurs personnes. Cette question la voici. Que pensez-vous des conditions de travail des femmes par rapport aux hommes? Voici leur réponse.
Bon, je pense qu'on a bien évolué là-dessus, qu'il y a maintenant beaucoup de moyens pour la femme d'être au même stade que l'homme des conditions.
Bah, elles ont un salaire plus bas que celui des hommes.
Bah, ça dépend dans quel métier aussi.
C'est vrai, mais la plupart du temps.
Ouais. Merci.
Bonjour, bah, il semblerait que toutes les études montrent que, de toute façon, les femmes gagnent beaucoup moins que les hommes, que sur des travaux pénibles, c'est beaucoup plus difficile pour elles, et à salaire moindre en plus. Donc je pense qu'on n'est pas du tout dans l'équité ni l'égalité encore à ce niveau-là.
Comme vous le voyez dans les sondages, les femmes ont en moyenne plus de difficultés et sont plus exposées aux risques psychologiques et sociaux. Souvent, elles ont plus de difficultés dans les tâches physiques. Pour remédier à cela, certaines entreprises ont par exemple mis en place des monte-charges pour monter les pièces lourdes, et il y a encore plein d'autres exemples.
Puis nous enchaînons avec un autre micro-trottoir de Mathis et Pacôme sur le congé maternité, l'impact sur les carrières, les retraites, la vie des femmes.
Bonjour, on se nomme Mathis et Pacôme de la seconde horticole du lycée horticole de Blois et nous allons vous parler du droit des femmes et plus particulièrement du congé maternité. Nous avons choisi de parler de ce projet car les femmes prennent beaucoup de temps à s'occuper de leurs enfants et potentiellement un impact sur leur retraite.
D'après vous, qu'est-ce que le congé maternité ?
Alors le congé maternité, excusez-moi, c'est un congé que la loi nous donne en tant que salarié pour les femmes qui ont des enfants, pour avoir du temps pour les élever.
Quel impact selon vous sur votre carrière ?
La carrière, ça nous l'a fait mettre un peu en suspens selon le temps que l'on prend par rapport à ce congé. Mais je ne prendrais pas ça pour un mal, car on peut élever ses enfants et que jamais ça on peut le récupérer par la suite.
Et dernière question, quel est votre ressenti ?
Mon ressenti, je trouve ça très bien. Moi, je pense qu'il faut profiter de ses enfants, avoir un maximum de temps, car ça grandit trop vite.
D'après vous, qu'est-ce que le congé maternité ?
Alors, le congé maternité, c'est un congé qui est donné aux femmes lorsqu'elles vont accoucher d'un enfant, pour se préparer à la naissance et après la naissance.
Quel impact selon vous sur votre sur leur carrière ?
L'impact que ça a sur leur carrière, je dirais que il est double. Le premier, c'est que en fait, ça représente quand même une pause. Donc c'est-à-dire qu'il faut être capable de sortir de son travail et du quotidien. Donc c'est quelque chose qui se prépare. Et la deuxième chose, c'est que ça peut être aussi un risque parce qu'en fait, notamment en termes d'égalité, il y a des employeurs qui sont pas très motivés à avoir des salariés qui partent pendant 4 mois et qui du coup peuvent être contraints, en tout cas qui peuvent être tentés plutôt de pas être très accueillants par rapport à ce congé. Mais voilà, en tout cas c'est un droit qui devrait être bien intégré.
Et dernière question, quel est votre ressenti ?
Pour le coup, vu qu'on va avoir un enfant, on est assez soutenu sur la notion des congés paternité et maternité, mais j'aimerais bien que ce soit encore plus dans nos, on va dire acquis, que ce soit encore plus intégré dans notre manière de vivre et que ce soit pas source d'inégalité.
D'après vous, qu'est-ce que le congé maternité ?
C'est un moment très très important dans une vie de couple, de façon à pouvoir profiter vraiment de ses propres enfants.
Quel impact selon vous sur leur carrière ?
Ah, sur la carrière, la vie est quand même assez longue. Maintenant, un emploi de 20 ans jusqu'à 60, voire plus maintenant, je pense que les gens vont changer de profession. N'empêche que ça reste un moment très très important, même dans une carrière, ça peut développer une carrière.
Et une dernière question, quel est votre ressenti ?
Quel est mon ?
Votre ressenti.
Mon ressenti pour première question que vous avez posée sur le congé de maternité.
Oui.
Comme je réponds, c'est très très important. C'est vraiment humainement, c'est très fort. Vivre auprès de ses enfants, c'est vraiment un moment très très agréable.
D'après vous, qu'est-ce que le congé de maternité ?
Congé de maternité, c'est un temps qui est accordé quand il y a un enfant qui arrive dans un foyer pour pouvoir s'occuper de lui correctement.
Et quel impact selon vous sur leur carrière ?
La carrière de qui ?
La carrière des personnes qui font le congé de maternité.
La carrière des femmes. C'est une bonne question ça. Je pense que temporairement ça sort les gens de leur métier, donc c'est sûrement pas neutre.
D'accord, et quel est votre ressenti ?
Alors moi, mon ressenti, je peux te parler que d'une expérience que j'ai personnellement, mais qui commence à dater un petit peu.
D'accord.
Puisque mes enfants ont un peu plus de 20 ans, donc à l'époque j'ai eu, moi, le père n'avait que 3 jours de maternité de congé.
Ah, d'accord.
Donc, impact sur ma carrière en tant que prof, zéro. Parce que je peux très bien être malade 3 jours sans que c'est une grosse conséquence. Hein. Pour ma femme, je ne me souviens plus du tout combien de temps elle avait, mais ça ne devait pas être énorme non plus, peut-être un mois, je ne sais plus, quelque chose comme ça. Mais c'est pareil, en tant qu'enseignant, ça a sans doute moins d'impact que sur d'autres métiers.
D'après vous, qu'est-ce que le congé maternité ?
Le congé maternité ? Eh bien, en France, c'est un congé qui est offert à toutes les femmes qui sont enceintes et qui, à l'approche du terme, c'est-à-dire le moment où la maman va accoucher, est arrêtée pour pouvoir permettre au bébé, petit à petit, de faire sa place, de préparer son arrivée. Et puis ensuite, une fois le bébé arrivé, eh bien, c'est le droit de pouvoir s'occuper de ce petit bout qui, tout seul, ne peut pas s'en sortir. Donc, c'est aussi la possibilité pour une maman d'allaiter, une famille de pouvoir se construire autour de l'arrivée d'un enfant. Il est possible pour un congé maternité d'être un petit peu prolongé, me semble-t-il, de manière à envisager ce qu'on appelle le sevrage pour les mamans qui allaitent. Et puis sinon, préparer aussi le fait que ce bébé-là va devoir être gardé par une nounou ou pris en charge dans une crèche. Donc ce congé maternité permet de préparer et de gérer l'arrivée d'un bébé. Alors, dans les droits, c'est inscrit dans la loi en France, hein, les droits sont plutôt bien faits en France. Dans d'autres pays, le congé maternité ne va pas de soi et ce ne sont pas toujours les mêmes couvertures sociales qui sont mises en œuvre.
Quel impact, selon vous, sur leur carrière ?
Ah, voilà, une question qui est drôlement intéressante. En fait, le congé maternité était, je crois, jusqu'alors considéré comme un congé maladie. Pour un parent, par exemple, qui prend un congé parental ou pour les congés maternité, ils ne sont pas pris en compte dans l'évolution des carrières. Par ailleurs, je me demande s'il n'y a pas un impact sur le droit à la retraite aussi. Et enfin, ce qu'on constate, c'est que sur des postes, même sans parler de postes à responsabilité, c'est que les femmes et les hommes ne sont pas tout à fait encore égaux dans les sociétés professionnelles, on va dire, dans l'accès à leurs droits. Et certaines femmes peuvent souffrir de discrimination à l'embauche parce qu'elles sont mamans et que le patron pense ou penserait prendre des risques d'embaucher une maman qui s'absenterait parce que son enfant pourrait être malade ou que l'école pourrait être fermée. Ce qui veut dire que cette idée que quand on embauche une femme, on prend le risque d'embaucher aussi une maman avec tout ce que ça présuppose de congé maladie, etc. On voit que dans la société française, il y a encore ces stéréotypes-là. Et puis, dans l'évolution de carrière aussi, sur des postes à responsabilité, on propose beaucoup moins à des femmes qu'à des hommes d'accéder à ces postes-là, sous prétexte qu'elles sont et femmes et mamans, et qu'on demande à quelqu'un qui prend un poste à responsabilité d'être complètement dédié à l'entreprise, de prioriser l'entreprise et non pas à la vie familiale, comme si un papa devait prioriser aussi l'entreprise plutôt que sa vie familiale.
Merci. Et dernière question, quel est votre ressenti ?
Je crois que mon ressenti, je l'ai exprimé là. Moi, je suis pour une égalité pleine et entière. Je suis pour le fait que chacun individuellement, on réfléchisse à nos stéréotypes, c'est-à-dire une façon un peu caricaturale de penser les rôles de chacun dans une société, pour commencer dans une famille et puis ensuite dans les entreprises, dans les institutions. Je crois qu'il y a encore beaucoup de progrès à faire dans la question de comment on devient une femme ou comment on devient un homme. C'est-à-dire la construction, on se construit dans le genre essentiellement par le social, c'est-à-dire par l'environnement culturel, social, sociétal, j'ai envie de dire. Je pense que on ne devrait plus, aujourd'hui, au XXIe siècle, trouver des jouets pour les filles et des jouets pour les garçons. Ça ne devrait plus exister, ça. Ça commence là, en fait. On se construit dans son genre au travers de son environnement. Et ça commence pour un bébé et un enfant par les jouets, notamment.
Conclusion. En nous fiant à ces interviews, nous comprenons que c'est très difficile de s'occuper d'un enfant en bas âge et que la femme se fatigue physiquement et mentalement. On a interrogé des personnes. Nous comprenons ainsi qu'il peut avoir un potentiel impact financier en fonction du prolongement du congé maternité.
C'était les secondes Horti et CVPJ du lycée Horticole de Blois. Merci de nous avoir écoutés. Nous vous quittons sur sa chaîne de chimie.
J'aurais beau tarter des milliers d'MC, si les femmes ne seraient bonnes qu'à la vaisselle. Le passé difficile, ferme ta gueule si tu ne viens pas de la paix. Sur le trajet des critiques, sur les épaules, ôtez la tête. Pas dans l'attente de votre reconnaissance. Le hip-hop hybride entame sa renaissance. La misogynie sans cesse omniprésente. Sur les réseaux, pas de limite, c'est exaspérant. Quand t'es agressif, fais le pélo. Quand t'es pas sexy, fais le pélo. Si tu fais des thunes, t'es une salope. Même avec un pull, t'es une salope. Traumatisés seront les ondes. L'heure du combat arrive, ça ne le gong. La petite est validée par tous les ongles. J'suis pas la bombe, faire apprécier des cons. Ouais, tu seras témoin des dégâts. T'es pas pressé d'Hurricane, ça va sur toi. Les aigles et les pigeons ne se mélangent pas. J'ai tout ce que tu n'as pas donc. J'suis cette sale chienne. Celle qui n'a rien demandé. Celle qui n'a pas quémandé. Celle qui vient te démanger. Celle qui t'a bien dérangé. J'aurais beau rapper la peine, résister à la haine, je ne serai jamais la reine. J'aurais beau tarter des milliers d'MC, si les femmes ne seraient bonnes qu'à la vaisselle. Le passé difficile, ferme ta gueule si tu ne viens pas de la tête. Sur le trajet des critiques, sur les épaules, ôtez la tête. Fous le seum, celle qui débarque au milieu de milliers de cums. Tu n'apprécies pas, tu commandes tes chums. Derrière ton écran, des pouces, les décèles. Ouais, je vais niquer tous vos tabous. Aussi épuisé qu'une source andalouse. Vénus est revenue à l'ordre du jour. La rage, on a tout, je suis lancé du lourd. Je suis celle que tu n'attends.
t'en dépend. Celle qui ne t'inspire pas, je suis celle que t'insulte, je te fais la bise, man. Je n'éduquerai pas un âne avec un freestyle, ouais. Même si je rappe, danser, chanter, parler anglais, pour certains, je ne serai jamais qu'une chienne. Je devrais rester à la maison pour tâches ménagères enchaînées à des chaînes. Chienne, celle qui n'a rien demandé, celle qui n'a pas quémandé, celle qui vient te démanger, celle qui t'a bien dérangé. Sale chienne, sale chienne, sale chienne, ouh, sale chienne, sale chienne. J'aurais beau rapper la peine, résister à la haine, je ne serai jamais la reine. Chienne. J'aurais beau tarter des milliers d'MC, les femmes ne seraient bonnes qu'à la vaisselle. Chienne. Le passé difficile, ferme ta gueule si tu ne viens pas de la tête. Chienne. Sur le trajet des critiques, sur les épaules, ôter la tête. Chienne.